Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique durant laquelle nous expliquons ce que la Bible enseigne sur des thèmes touchant notre quotidien.
La plupart d'entre nous passons nos journées occupées à travailler. Aussi nous semble-t-il important de découvrir ce que la Bible nous apprend à ce sujet. Jean-Marc est présent parmi nous pour nous conduire dans nos réflexions. Et aujourd'hui, il parlera avec Yann du travail, tel que Dieu l'avait conçu à la création du monde.
Bonjour Jean-Marc et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Bonjour Yann et merci pour votre invitation.
Jean-Marc, dites-nous pourquoi il est important de parler du travail lors d'une émission telle qu'Espérance aujourd'hui.
Comme Hélène vient de le rappeler, pour la plupart d'entre nous, le travail représente l'activité principale de notre existence quotidienne. Or, en tant que chrétiens, nous croyons qu'aucun élément de notre vie n'échappe au regard bienveillant de Dieu. Nous savons qu'à travers la Bible, Dieu parle du travail tout autant qu'il le fait de la vie de famille ou de la vie d'église, par exemple. Nous pouvons nous interroger sur le monde du travail ou sur notre propre expérience dans ce domaine. Nous pouvons nous demander comment il convient à un chrétien de se conduire au travail. Nous découvrirons ses réponses à toutes ces questions en ouvrant la Bible et nous les aborderons tour à tour, tout au long de cette série.
Pour beaucoup, le travail représente un fardeau pénible, mais indispensable pour subvenir aux nécessités de la vie.
Il est vrai que pour bien des personnes, le travail est une corvée pesante. Or aujourd'hui, nous allons découvrir qu'à l'origine, ce n'est pas ainsi que l'Éternel avait conçu le travail. Écoutons ensemble quelques extraits du livre de la Genèse. D'abord au chapitre 1, versets 27 à 31.
Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. »
Ensuite, au chapitre 2, verset 15.
L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder.
Il convient donc de demander, Jean-Marc, pourquoi l'Éternel a-t-il créé l'homme et la femme?
La première raison est celle-ci. Dieu créa l'homme et la femme afin qu'ils puissent jouir de sa communion et vivre une amitié avec lui. Toutefois, il existe une deuxième raison pour laquelle Dieu les créa. Tous deux avaient une mission à accomplir, notamment celle de devenir maître de la terre et de la dominer. Or, cette tâche implique un travail.
Mais Jean-Marc, l'idée de domination n'est pas forcément bien comprise de nos jours. Elle évoque l'attitude de personnes autoritaires et tyranniques. De plus, nous devons faire face à tant de problèmes écologiques que nous sommes bien obligés de constater que la façon dont les hommes ont dominé la terre est plutôt désastreuse.
Vous soulevez là des questions importantes. Et nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, je voudrais m'attarder sur les textes lus, et notamment sur le fait que Dieu créa l'homme et la femme à son image.
Quelle est la pertinence de ce fait et sa signification?
Cette phrase « être créé à l'image de Dieu » est riche de sens. Elle nous apprend que les hommes sont différents des animaux et qu'ils s'en distinguent nettement. De fait, les animaux ne nous sont jamais décrits ainsi. Or, cette déclaration vient enrichir notre discussion, car en effet, la création représente pour l'Éternel un travail, un labeur qui lui procure un immense plaisir. Dieu lui-même, en évoquant sa création, s'exclame en Genèse chapitre 1 « Tout est bon ». Nous pouvons en conclure que Dieu éprouve de la joie à créer de bonnes choses. Sa création représente un travail épanouissant.
Voulez-vous dire que si l'Éternel annonce que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, cela signifie qu'eux aussi, désormais, peuvent découvrir un épanouissement à travers le travail?
Oui, il faut dire toutefois que nous ne pouvons pas créer à la manière de Dieu. Dieu créa l'ordre naturel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais si je puis oser m'exprimer ainsi, il créa les hommes et les femmes afin qu'ils deviennent ses partenaires en vue de parfaire l'ordre naturel. Ainsi, Dieu institua l'ordre dans l'univers et il plaça les hommes sur la terre afin que ces derniers y fassent régner cet ordre.
Pouvez-vous donner des exemples concrets pour nous aider à mieux comprendre vos propos?
Oui. Nous avons lu en Genèse chapitre 2 que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultive. Autrement dit, les hommes devaient travailler la terre afin d'en extraire des récoltes pour vivre. Ils devaient s'occuper de ce jardin, veiller à son entretien, afin d'exploiter son potentiel et d'en tirer un merveilleux bénéfice. Ainsi, travailler la terre représentait une collaboration entre l'homme et l'Éternel. Le travail, tel qu'il était conçu à l'origine, était un partenariat entre Dieu et l'homme, et nous devons le concevoir ainsi aujourd'hui. Mais apportons un deuxième exemple. L'Éternel fit passer tous les animaux devant Adam, qui donna à chacun un nom qui lui était propre. Or, ici, nous constatons une première ébauche de la méthode scientifique. Autrement dit, la poursuite du savoir et de la recherche scientifique représente elles aussi un travail, un partenariat entre l'Éternel et l'homme. Ainsi, l'homme, en parvenant à mieux comprendre le monde naturel, peut mieux le maîtriser et le dominer.
Nous retrouvons ainsi le mot « dominer ». Pouvez-vous nous donner sa signification?
Oui, je propose la définition suivante. Dominer la terre, c'est faire bon usage des ressources que l'Éternel met à notre disposition. C'est vouloir apporter à tous les hommes et à toutes les femmes une qualité de vie correcte. Je le rappelle, nous devons nous adonner à ce travail, non de façon autonome, mais en tant que partenaire de l'Éternel. Si aujourd'hui, justement, nous constatons tant de problèmes, qu'ils soient dus à l'injustice ou la pauvreté, ou encore à la pollution, c'est parce que l'homme poursuit cet objectif de dominer la terre, sans nullement tenir compte de la volonté et de la sagesse de l'Éternel, son Dieu.
Pouvez-vous à présent nous donner une définition du travail, telle que l'Éternel l'avait conçu tout au début de la création?
Oui, tout d'abord, le travail était bon pour les hommes et les femmes. Si aujourd'hui notre expérience du monde du travail est rendue pénible, c'est parce qu'un événement est intervenu pour tout gâcher. Ce sinistre événement s'appelle la chute. Nous en parlerons plus en détail la prochaine fois. À l'origine, le travail était bon pour l'homme. Il était épanouissant. Il lui apportait un grand plaisir. Le travail consiste à collaborer avec Dieu, à faire bon usage des ressources qu'il met à notre disposition, afin d'accomplir ce qui est utile, bienfaisant en soi, pour ses proches et la communauté dans laquelle nous vivons. Le travail permet la continuation de la vie, l'entretien de la vie et l'amélioration de la vie. Nous constatons même aujourd'hui que la plupart des métiers et des professions reflètent cette définition, même si parfois le travail peut perdre son côté agréable et épanouissant.
Nous poursuivrons donc notre série sur le travail la prochaine fois. À présent, nous allons méditer sur quelques paroles de Jésus trouvées dans l'évangile de Luc.
En fait, nous allons réfléchir sur les vives critiques que Jésus a adressées aux pharisiens.
Et quelle est donc la portée de ces paroles pour nous aujourd'hui?
Jésus, en remettant en question l'attitude des pharisiens, désirait leur venir en aide. Il voulait les amener vers une meilleure compréhension de la foi. Il souhaitait les libérer des habitudes qui les empêchaient de vraiment connaître l'Éternel. Malheureusement, les mêmes pièges peuvent nous guetter aujourd'hui encore. Et notre désir, en reprenant ces paroles de Jésus, est d'amener les chrétiens à croître spirituellement, tout en ayant les regards fixés sur le Seigneur, l'auteur de la foi. Écoutons alors cet extrait de l'évangile de Luc, où Jésus s'adresse aux pharisiens. Il s'agit du chapitre 11, versets 37 à 41.
Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fou que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. »
Est-ce important de se laver les mains avant de s'attabler pour prendre un repas? Sur le plan de l'hygiène, nous pouvons affirmer que oui. Le fait de se laver les mains nous protège de certains microbes et nous évite de contracter certaines maladies. Cependant, les critiques des pharisiens à l'égard de Jésus n'étaient pas motivées par un souci de santé. Non, selon eux, il fallait se laver les mains afin de demeurer pur devant l'Éternel. En fait, les pharisiens avaient établi toute une liste de rites à respecter dans l'espoir de demeurer pur. Jésus, quant à lui, va révéler leur raisonnement erroné. Nous sommes impurs devant l'Éternel, non à cause des choses sales que nous avons touchées et qui peuvent nous contaminer, mais à cause du péché qui réside dans nos cœurs. Nous pouvons présenter les choses ainsi. Quel est donc le plus important lorsque nous nous attablons avec notre invité? Est-ce d'avoir les mains propres? Ou bien est-ce d'avoir un cœur sincère? Un cœur libéré de toute mauvaise pensée, de motivations trompeuses, telles la haine, la jalousie ou les préjugés. Jésus savait pertinemment qu'en l'invitant, les pharisiens ne lui réservaient pas un bon accueil, qu'ils ne désiraient pas non plus écouter son enseignement. Les motivations de ces hommes, dits religieux, étaient tortueuses. Leur cœur était rempli de mauvaises pensées. Or, l'Éternel connaissait leur intention, leur véritable désir. Leurs paroles et gestes impurs ne lui étaient pas inconnus. Ces pharisiens auraient pu se laver entièrement 20 fois par jour, mais cela n'aurait nullement changé leur état d'impureté devant l'Éternel. Qu'en est-il pour vous? Accomplissez-vous des rites religieux dans l'espoir de devenir pur devant Dieu, alors que de mauvaises pensées résident dans vos cœurs et ont une emprise sur vous? Selon Jésus, vous vous trompez de chemin. Par contre, il est écrit dans la Bible: si nous reconnaissons nos péchés, Jésus est fidèle et juste, et par conséquent, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.
Merci Flavien pour ce rappel important. Nous poursuivrons nos réflexions à travers nos deux séries la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.